Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, déconfinement République tchèque, les magasins, les restaurants et autres services rouvrent ce jeudi. Le nombre de contaminations au Covid-19 toujours à la baisse, mais moins de tests cette semaine. Et puis en foot, en Ligue Europa, à Lille, le Sparta Prague joue son avenir européen. Qui passe, comme annoncé, du niveau 4 au niveau 3 dans son système de veille épidémiologique PES, entraînant la réouverture sous certaines conditions de tous les magasins, des restaurants et autres établissements accueillant du public. Ce changement de niveau signe aussi la fin du couvre-feu nocturne. Tous les détails de ce qui ouvre et de ce qui change en Tchéquie à partir de ce jeudi sur notre site internet, bien entendu. Les autorités tchèques ont toutefois fait savoir qu'il n'y aurait probablement pas de baisse du niveau épidémiologique avant la fin de cette année, d'autant moins que ce déconfinement partiel risque de faire augmenter le nombre de contaminations qui certes baissent mais pas autant que souhaité. Le gouvernement va d'ailleurs demander aux députés de reconduire une nouvelle fois l'état d'urgence pour 30 jours, un état d'urgence qui officiellement doit prendre fin le 12 décembre. Le nombre de cas de contamination, je vous le disais, est toujours à la baisse en Tchéquie avec 4563 nouveaux cas dépistés pour la journée de mercredi, soit près de 400 de moins qu'il y a une semaine selon les données du ministère de la Santé tchèque. Mais le nombre de tests est inférieur à celui de la semaine dernière. Ainsi, le pourcentage de cas positifs est passé de 16,4% à 23,6% entre lundi et mardi. 533 042 personnes en tout ont été contaminées depuis le début de la maladie en mars dernier. 8 515 personnes sont décédées et 461 599 ont guéri de la maladie. Actuellement, 4 667 malades sont hospitalisés en République tchèque. Le chef de la diplomatie, Tomáš Petříček, a annoncé la création d'un poste détaché à Jérusalem et a souligné que l'ambassade restait toutefois à Tel Aviv. Il ne s'agit pas d'une nouvelle représentation diplomatique, mais d'un service à destination des citoyens tchèques, a encore précisé le ministère des Affaires étrangères. Actuellement, la République tchèque est présente dans la ville sainte via un consulat honoraire et la maison tchèque. Un diplomate sera désormais présent sur place. Donc, le président de la République, Miloš Zeman, plaide depuis longtemps pour un déménagement de l'ambassade tchèque à Jérusalem, sur le modèle de celui opéré par l'ambassade des États-Unis. Mais le gouvernement tchèque est toujours resté beaucoup plus prudent en la matière. Jarmila Halberstadtová, une des dernières anciennes combattantes de la Seconde Guerre mondiale, est morte à l'âge de 96 ans, a annoncé mercredi le ministre de la Défense Lubomír Metnar, via son compte Twitter, élevé au grade de colonel. Jarmila Halberstadtová avait suivi une formation médicale et d'opératrice radio. Elle avait rejoint les forces tchécoslovaques armées en Russie dans la ville de Buzuluk. Elle a notamment participé à la bataille de Sokolovo en 1943, ainsi qu'à celle du col de Doukla dans les Carpates en 1944. L'an dernier, elle avait reçu la médaille pour acte de courage des mains du président Miloš Zeman. Le Sparta Prague affronte Lille ce jeudi soir à l'occasion de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue Europa, 3e au classement avec respectivement 2 et 1 points de retard sur le LOSC et le Milan AC. Les Pragois peuvent encore espérer se qualifier pour les 16e de finale s'ils ne s'inclinent pas dans le nord de la France. Au match aller à Prague, Lille s'était imposé 4 buts à 1. Premier de son groupe après ses deux succès consécutifs contre Nice, le Slavia figure lui en meilleure position avant la réception des Israéliens de l'Apoel Bercheva. Un résultat nul suffit aux Pragois pour assurer leur qualification. Troisième club tchèque en lice en Ligue Europa, mais déjà pratiquement éliminé, le Slovan Liberec rend visite aux Belges de la Gantoise, qu'ils avaient battu 1-0 lors de la rencontre aller en Bohême du Nord en ouverture de la compétition. On termine par un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Barbora, le front froid se sera déplacé vers l'est avec des chutes de neige encore possibles en Moravie. Il fera gris, sauf sur la façade ouest du pays. Les températures oscilleront autour de 3 degrés pour les moyennes maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Une actualité dont Anna Kubišta vient de nous résumer les principaux titres. Au sommaire des 20 prochaines minutes, de la politique tout d'abord, avec les partis qui, déjà, se mobilisent contre le gouvernement d'Andrej Babiš dans la perspective des élections législatives qui se tiendront l'année prochaine. Plus de détails dans quelques instants. Nous évoquerons aussi la situation des Tchèques de l'étranger qui continuent de réclamer notamment le vote par correspondance et la reconnaissance de leur diplôme. Pas évident, comme nous l'entendrons. Et puis enfin, à l'approche de la fête d'un Saint-Nicolas qui sera masqué lui aussi cette année, nous rappellerons deux belles traditions presque perdues du début de l'Avent. Vous êtes en compagnie de Radio Prague International et de Marion Gallard. Vous faites très bien, excellente écoute. Les prochaines élections législatives en République tchèque se tiendront à l'automne 2021, mais déjà, l'opposition se mobilise avec une volonté clairement affichée, mettre leurs forces en commun pour faire tomber Andrej Babiš de son piédestal et lui succéder à la tête d'un nouveau gouvernement. Une coalition libérale avec les pirates en tête de gondole prend forme notamment. Guillaume Narguet.
Oui Marion, avec tout d'abord une grande question, la République tchèque deviendra-t-elle le premier pays au monde à disposer d'un gouvernement dirigé par un pirate ? À désormais un peu moins d'un an des prochaines élections législatives, comme vous l'avez dit, la question peut être posée. Après tout, qui aurait imaginé, il y a encore relativement peu, que Prague aurait un jour un maire pirate à sa tête? Or, à l'automne 2018, c'est bien Zdeněk Hřib qui a succédé à Adriana Krnáčová, qui était alors membre du mouvement ANO dirigé par Andrej Babiš. Ce scénario dans la capitale peut-il donc se reproduire à l'échelle nationale? Il est bien entendu encore trop tôt pour répondre à cette question. Néanmoins, 3 ans après avoir fait une entrée historique à la Chambre des députés, grâce à un score légèrement inférieur à 11%, un score qui permet depuis à ses membres d'y occuper 22 des 200 sièges, le parti pirate apparaît désormais clairement comme la deuxième force principale sur un échiquier politique tchèque très morcelé. Les résultats publiés ce jeudi d'un récent sondage confirment cette donne. Si le scrutin législatif s'était tenu en novembre dernier, le mouvement ANO l'aurait certes de nouveau emporté en recueillant un peu plus de 28% des suffrages, mais devant cette fois précisément les pirates, des pirates dont les préférences des électeurs se situent autour de 14%. Derrière ce duo de tête, le parti conservateur ODS, principale formation de droite en République tchèque, et STAN, comprenez le mouvement des maires et indépendants, se partagerait la troisième place avec un peu plus de 10% d'intention de vote pour chacun. Pour l'heure, on le voit, la nette domination d'ANO, principale formation de l'actuelle coalition gouvernementale, formée avec le Parti social-démocrate, n'est pas menacée. Le mouvement populiste, qui avait remporté les élections en 2017 avec un score de près de 30% et semble toujours pouvoir compter sur un électorat assez stable, apparaît même intouchable. Mais c'est précisément la raison pour laquelle les partis de l'opposition se mobilisent pour rassembler les forces, tant la personne d'Andrej Babiš, en dehors des rangs de ses fidèles, fait l'unanimité contre lui. Fin octobre, ce sont d'abord l'ODS, Top 09 et les chrétiens démocrates qui ont annoncé s'être entendus, et ce pour former un bloc de centre-droit dans l'optique des prochaines législatives. Si l'on s'en tient au résultat du sondage de novembre, à E3, ces partis réaliseraient un score global d'environ 20%. Plus récemment, ce sont les leaders des Pirates et de STAN, autres formations de tendance libérale, qui ont fait part de leur intention de mettre sur pied un programme commun. Des négociations entre les deux camps devraient être menées à bien d'ici Noël, avec, dans ce cas de figure, un potentiel de succès plus important, comme en convient le politologue Lubomír Kopeček de l'université Masaryk à Brno. On l'écoute. Battre le mouvement ANO aux élections est une vision tout à fait réaliste compte tenu de l'évolution de la situation. Même si les sondages ne confirment pas tous catégoriquement cette tendance, Hano a perdu un peu de terrain à cause de la gestion de la crise du coronavirus. Les calculs sont assez simples. Si cette coalition entre les pirates et Stan voit effectivement le jour, elle pourra raisonnablement envisager de menacer la suprématie du mouvement Hano. Inversement, si les pirates se présentent seuls aux élections, ils pourront certes espérer un bon résultat, mais insuffisant si l'objectif déclaré est de remporter les élections. Une telle issue deviendrait illusoire. Mardi, dans le cadre d'un référendum en ligne qui a ressemblé à un plébiscite, Ivan Bartosz a été reconduit dans ses fonctions de chef des pirates. C'est donc lui qui, lors de la campagne électorale, figurera en tête de liste de cette coalition libérale et se portera candidat aux fonctions de prochain Premier ministre. Dreadlocks toujours sur la tête, malgré le costume cravate qu'il porte désormais plus régulièrement, Ivan Bartosz est devenu une des figures politiques les plus en vue en République tchèque ces dernières années. Très médiatique, y compris à l'international, en raison de son style hors norme, inlassable critique du gouvernement, cet ancien disc-jockey et membre d'un groupe punk, aujourd'hui accordéoniste plus rangé, estime avoir les épaules suffisamment larges pour diriger le grand orchestre, en tous les cas bien mieux, selon lui, qu'Andrei Babiš.
L'école tchèque sans frontières, une association qui propose à quelque 3600 enfants bilingues un enseignement du tchèque dans plus de 100 villes du monde entier, a organisé en novembre dernier une enquête et une conférence internationale sur les problèmes auxquels sont confrontés les tchèques de l'étranger. Magdalena Rozenkova nous en dit plus.
Si environ 2 800 000 personnes partout dans le monde affirment avoir des origines tchèques, l'association École Tchèque Sans Frontières, qui siège à Prague, est en contact direct avec plusieurs milliers d'entre eux. Nous avons joint à Paris la fondatrice de ce réseau qui compte près de 130 écoles tchèques aux quatre coins du monde. Lucie Slavíková Boucher explique.
Grâce à ces écoles, l'association a une vue assez précise de la diaspora tchèque qui gravite autour de ces écoles à l'étranger, car une école, ça veut dire bien sûr les élèves qui chez nous commencent à l'âge de 18 mois et l'enseignement va dans certaines écoles jusqu'à l'âge adulte, mais également ça représente les parents, ça représente les grands-parents et nous avons avec nous également des jeunes des professeurs de façon générale et puis des jeunes, des stagiaires du programme d'Erasmus+, qui sont souvent un peu perdus dans la vision de l'État tchèque car ils partent à l'étranger. Des fois, ils sont là juste pour 6 mois, 1 an, mais des fois, ils restent ou ils reviennent et ils ne sont pas encore complètement... ils ne sont pas encore parents d'enfants qui après pourraient être répertoriés à travers de leurs écoles en République tchèque. Et ils ne sont pas encore complètement lancés dans leur carrière. Donc, ils sont perdus un peu de la vision de l'État. Mais nous, on les retrouve au sein de nos écoles. Mm-hmm. Donc, on peut dire que dans les écoles, on a toutes les générations des Tchèques à l'étranger. Et grâce à ça, nous pouvons observer de quoi ces personnes ont besoin, pourquoi, qu'est-ce qu'ils pourraient offrir à leur état d'origine. Et c'est pour cela qu'on a organisé déjà dans le passé, en collaboration avec le Sénat et concrètement avec la commission du Sénat pour les Tchèques vivant à l'étranger, ou pour les compatriotes à l'étranger, on a organisé 3 conférences sur le sujet de façon globale, sur le sujet de la diaspora tchèque, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter, comment elle pourrait être plus liée à la République tchèque, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour ses compatriotes à l'étranger et vice-versa.
Selon les estimations du ministère des Affaires étrangères, les ressortissants tchèques sont environ 700 000 à résider à l'étranger, mais seuls 10 000 participent régulièrement aux élections organisées dans leur pays d'origine. Selon Lucie Slavikova-Boucher, l'impossibilité de voter par correspondance ou par procuration est un problème récurrent dont se plaignent les expatriés tchèques depuis plusieurs années.
Nous sommes, la République tchèque, l'un des rares pays d'Europe qui n'a pas ce système de vote, ce que globalement les gens considèrent absolument impossible. Donc dans l'enquête, il y a 96-97% de personnes répondantes qui se sont exprimées pour ce type de vote, et de toute façon, de façon générale, en dehors de ceux qui s'intéressent absolument pas à la République tchèque, tout le monde voudrait voter par correspondance. Car il faut bien se rendre compte que il ne s'agit pas uniquement des gens qui vivent à l'étranger de façon prolongée ou définitive, entre guillemets, mais il s'agit des étudiants qui partent pour un an, pour 6 mois. Et pendant ces 6 mois, comme c'était le cas la dernière fois, il y a juste les élections présidentielles, les élections parlementaires. Et l'étudiant qui est parti en septembre et il est revenu fin janvier, il a élu ni son parlement, s'il ne pouvait pas voter au point de vue géographique dans un consulat ou dans une ambassade, ou il ne pouvait pas revenir en République tchèque, il n'a élu ni son parlement ni son président, qui est quand même relativement grave. Et puis, c'est pareil pour tous les doctorants qui partent pour 3 ans, pour 4 ans. Donc, de toute façon, il ne s'agit pas juste des personnes vivant à l'étranger et qui, de toute façon, ont des liens car il y a des biens en République tchèque, ils peuvent avoir des biens, ils peuvent avoir ou ils ont de la famille, et il aurait extrêmement important de pouvoir s'exprimer comment le pays évolue. Je pense que ce qui est très important, c'est que, et c'est le débat qu'il a également montré, que et d'autres débats qui ont été organisés un peu autour, que le ministère des Affaires étrangères vraiment soutient cette idée.
De nombreux Tchèques ayant étudié à l'étranger continuent à se heurter au problème de reconnaissance de leur diplôme en République tchèque. Cette complication administrative représente une autre barrière entre les expatriés et leur pays d'origine.
Des gens qui voudraient revenir en République tchèque ont vraiment des difficultés à faire valoir leur diplôme. Le processus de validation de leur diplôme, formation acquis à l'étranger, est long et pas forcément très clair. Donc ça dissuade pas mal de monde. Et également, visiblement, ce qui a été dit plusieurs fois, les gens seraient même prêts à revenir à travailler pour l'État. Donc, ne pas choisir forcément la pratique privée du business privé lucratif, mais travailler dans le système de l'État. Mais justement, la reconnaissance de diplôme est tellement complexe que ça leur fait perdre leur chance de se même présenter au concours éventuel. Et du coup, ils partent, soit ils reviennent à l'étranger, soit ils vont dans le secteur privé en République tchèque, ce qui est certainement très dommage.
Tous les enfants tchèques connaissent Saint-Nicolas, ce personnage légendaire qui leur rend visite le 5 décembre au soir, la veille de la fête, en compagnie d'un ange et d'un diable, pour leur offrir des friandises. Mais ce que beaucoup d'entre eux ne savent pas, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, les personnages traditionnels liés à la période de l'Avent étaient plus nombreux. Inspirés de l'histoire des martyrs Sainte-Lucie et Sainte-Barbe, dits Barbocchi et des Loutiers, défilaient respectivement les 4 et 13 décembre dans les villages tchèques. Pourquoi étaient-elles habillées en blanc et pourquoi les filles coupaient-elles de petites branches d'arbres fruitiers? Autant de questions auxquelles répond Alžbieta Rouškova. C'est là une rediffusion d'une rubrique datée du 1er décembre 2016.
Ce sont des histoires qui ressemblent à des contes d'horreur. Les légendes de la Sainte Barbe, la Grande Martyre et de la Sainte Lucie de Syracuse, qu'on commémore dans la première moitié du mois de décembre, ont une chose en commun. Les deux femmes sont mortes pour leur foi chrétienne, l'une condamnée à l'exécution par son propre père, l'autre martyrisée après ce qu'elle s'était éborgné les deux yeux pour échapper au mariage avec un païen. Un peu partout dans le monde, les jours de la fête de ces deux personnages sont, ou étaient par le passé, accompagnés de nombreuses traditions populaires. Les pays tchèques ne font pas l'exception. Le 4 décembre, la date de la fête de la Sainte Barbe et de toutes ses homonymes, appelées en République tchèque Barbora, était considérée comme un jour magique. D'après la légende, Sainte Barbe envoyait alors ses ambassadrices, les Barborke, un diminutif du prénom Barbora, qui descendait sur la terre à l'aide des cordes dorées et visiter la maison pour vérifier si les gens y vivaient selon les règles de Dieu. Pendant plusieurs siècles, ces barborkés, représentés par des femmes déguisées en une sorte de fantôme et habillées en blanc, défilaient donc dans les villages chaque année, deux jours seulement avant l'arrivée de notre personnage, celui de Saint-Nicolas. Elle incitait les familles, et notamment les enfants, à vivre en conformité avec les vertus chrétiennes, à bien travailler et à obéir à leurs parents. Tandis que les enfants sages recevaient des pains d'épices et d'autres friandises, les enfants méchants ont été punis par des coups de verge. Une autre tradition, toujours bien vivante un peu partout en Europe centrale, veut que les filles célibataires aillent couper le 4 décembre des petites branches d'arbres fruitiers, elles aussi appelées barborkés. Celles-ci sont célèbres pour leur pouvoir de prédire l'avenir. La fille dont, en effet, à chaque brindille un nom de garçon, elle les met dans un vase. La branche qui fleurit première avant le 24 décembre, la veille de Noël, indique le nom de son futur époux. À présent, des milliers de Tchèques cueillent les barborkés chaque année. Comment est-il possible que cette tradition est parvenue jusqu'à nos jours? Sociologue et écrivain Jan Jandourek a expliqué il y a quelques années de cela dans une émission pour la télévision tchèque.
Z těch starých zvyků se velmi často i třeba v tom církevním prostředí udrželi ty, které mají něco.
Parmi ces vieilles coutumes, celles qui se sont conservées et ce même dans la tradition chrétienne concernent le plus souvent par exemple les relations dans le couple et la fertilité, mais aussi la capacité de survivre dans une situation difficile. C'est le cas de ces barborkés qui fleurissent en décembre et vainquent ainsi symboliquement la mort. Cette victoire sur la mort est quelque chose qui est commun aux traditions païennes comme au christianisme. Ce n'est donc pas un hasard que cette tradition ait survécu.
Un peu comme barborké pour la fête de la Sainte-Barbe, les Lutzie, appelés plus familièrement Lutzke ou Lutzie, défilaient elles aussi dans les villages tchèques tous les 13 décembre. Si dans le monde de la Sainte-Lucie est notamment une fête de la lumière, dans les pays tchèques, cette tradition est beaucoup plus sombre. Bien que considérée comme une protectrice contre la sorcellerie, Lutzie n'était pas un personnage tout à fait positif. L'historien de l'art Jan Reut poursuit.
Dans la majorité des cas, Lutzie était incarnée par une grande femme. Suite à cette tradition, on a donc commencé dans certaines régions à appeler de grosses personnes les Lutzie. Cette femme était habillée en blanc et portait une sorte de bec créé à partir d'un tissu blanc et elle hantait les enfants.
La tradition variait souvent d'une région à l'autre. En général, une ou plusieurs Lutzie venaient, de même que barborké, dans les ménages et contrôlaient si celles-ci étaient bien rangées. Leur déguisement blanc ainsi que le bec symbolisaient la propreté tant morale que réelle. De plus, elles portaient avec elles de grands couteaux et menaçaient les enfants de les éventrer s'ils ne garderont pas le jeûne de Noël. Les défilés spontanés des barborkés et des Lutzie ont disparu dans la plupart des villages tchèques vers la Première Guerre mondiale. Pourtant, ces dernières années, on peut voir de plus en plus d'efforts pour faire revivre cette tradition avant qu'elle ne soit oubliée à jamais.
C'est ainsi que s'achève pour ce jeudi le programme préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy !